De tous les dirigeants des BRICS présents au G20, c'est avec Medvedev que j'étais le plus impatient de nouer contact. Les relations entre les États-Unis et la Russie avaient atteint un point particulièrement critique. L'été précédent, quelques mois après l'entrée en fonction de Medvedev, la Russie avait envahi la Géorgie, une ancienne république soviétique, et occupé illégalement deux de ses provinces, déclenchant des violences entre les deux pays et des tensions avec les nations limitrophes. Pour nous, c'était le signal de l'escalade de Poutine dans l'effronterie et de ses dispositions générales belliqueuses, un refus troublant de respecter la souveraineté d'une autre nation et un non-respect caractérisé du droit international. Et, à plus d'un titre, il ne semblait pas avoir été pénalisé pour cela. Au-delà du gel des relations diplomatiques, le gouvernement Bush n'avait rien entrepris qui ressemble à une mesure punitive contre la Russie pour son acte d'agression. Le reste du monde avait haussé les épaules et était passé à autre chose, rendant pratiquement caduque toute entreprise tardive pour isoler la Russie. Mon gouvernement espérait mettre en place ce que nous appelions un « reset », un redémarrage avec la Russie, en ouvrant un dialogue afin de protéger nos intérêts, de soutenir nos alliés démocratiques dans la région et de trouver d'autres partenaires pour coopérer à la non-prolifération et au désarmement nucléaire. À cet effet, nous étions convenus, Medvedev et moi, de nous rencontrer en privé la veille du sommet. Je comptais sur deux experts de la Russie pour m'aider à préparer ce rendez-vous. Le sous-secrétaire aux affaires politiques du département d'État, Bill Burns, et notre directeur au Conseil de sécurité nationale pour la Russie et l'Eurasie, Michael McFaul. Burns, diplomate de carrière, ex-ambassadeur du gouvernement Bush en Russie, était grand, moustachu et légèrement voûté, avec la voix douce et l'air studieux d'un professeur d'Oxford. McFaul, en revanche, qui arborait un grand sourire et une tignasse blonde, était tout en énergie et passion. Originaire du Montana, il avait été conseiller de ma campagne tout en continuant à enseigner à Stanford et donnait l'impression de terminer chaque phrase par un point d'exclamation. McFaul était celui des deux qui avait le plus confiance dans notre capacité à exercer une influence sur la Russie, en partie parce qu'il avait vécu à Moscou au début des années 1990, à la période grisante de la transformation politique, d'abord en tant qu'universitaire, puis en tant que directeur sur le terrain d'une organisation pro-démocratie, partiellement financée par le gouvernement américain. Mais concernant Medvedev, McFaul partageait l'avis de Burns. Il ne fallait pas que je m'attende à grand-chose. « Medvedev va vouloir établir une bonne relation avec vous pour prouver qu'il a sa place sur la scène internationale », a-t-il dit. « Mais surtout, n'oubliez pas que c'est toujours Poutine qui mène la danse. » En consultant sa biographie, j'avais compris pourquoi tout le monde considérait que la marge de manœuvre de Medvedev était minime. La quarantaine tout juste passée, issue d'un milieu relativement privilégié, enfant unique de deux professeurs, il avait étudié le droit à la fin des années 1980, avait enseigné à l'université d'État de Leningrad et fait la connaissance de Vladimir Poutine à l'époque où ils avaient tous deux travaillé pour le maire de Saint-Pétersbourg, au début des années 1990, après la dissolution de l'Union soviétique. Pendant que Poutine continuait dans la politique, jusqu'à devenir premier ministre du président Boris Eltsine, Medvedev avait fait jouer ses relations pour obtenir un poste de cadre dans une des plus grandes entreprises d'exploitation forestière en Russie, dont il était également devenu actionnaire, à l'époque où la privatisation chaotique d'actifs d'État offrait aux actionnaires bien introduits la garantie d'une fortune. Tranquillement, il était devenu un homme riche, avait travaillé sur différents projets pour la municipalité de Saint-Pétersbourg, sans avoir à supporter le fardeau de se trouver sous les feux de la rampe. Ce n'est qu'à la fin de 1999 qu'il avait été intégré au gouvernement, recruté par Poutine à un poste de haut niveau à Moscou. Un mois plus tard, Eltsine démissionnait abruptement. Poutine passait alors du rang de premier ministre à celui de président intérimaire, et Medvedev le suivait dans son ascension. Autrement dit, Medvedev était un technocrate, un homme des coulisses, inconnu du grand public et dépourvu de base politique. Et c'est exactement l'image qu'il dégageait lorsqu'il est arrivé pour notre réunion à Winfield House, l'élégante résidence officielle londonienne de l'ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne, dans Regent's Park. Il était de petite taille, brun et affable, avait des manières un peu guindées, confinant à l'autodénigrement, plus le genre consultant en management international que politicien ou apparatchik. Apparemment, il comprenait l'anglais, mais préférait avoir recours à un interprète. J'ai entamé notre discussion en évoquant l'occupation militaire par son pays de la Géorgie. Comme il fallait s'y attendre, Medvedev s'en est tenu strictement aux éléments de langage officiel. Il a accusé le gouvernement géorgien d'avoir précipité la crise, a affirmé que la Russie n'était intervenue que pour défendre les citoyens russes contre des violences. Il a réfuté mon argument selon lequel l'invasion et l'occupation prolongée du pays portaient atteinte à la souveraineté de la Géorgie et enfreignaient le droit international. Sur un ton lourd de sous-entendu, il a suggéré que, contrairement aux Américains en Irak, les Russes avaient été franchement acclamés comme des forces de libération. En l'écoutant, je me suis souvenu de ce que le dissident Alexandre Solzhenitsyn avait dit de la politique pendant la période soviétique, à savoir que le mensonge était devenu non plus seulement une catégorie morale, mais un pilier de l'État. Mais si la réfutation de Medvedev sur la Géorgie me rappelait qu'il n'était pas un enfant de cœur, j'ai remarqué un certain détachement ironique dans sa manière de me répondre, comme s'il voulait que je sache qu'il ne croyait pas vraiment tout ce qu'il disait. Quand plus tard dans la discussion nous sommes passés à un autre sujet, son état d'esprit aussi a paru changer. Concernant les mesures à prendre pour gérer la crise financière, il était bien briefé et s'est montré constructif. Il a réagi avec enthousiasme à notre proposition de redémarrage des relations américano-russes, surtout lorsque j'ai évoqué l'expansion de la coopération dans des domaines non militaires comme l'enseignement, les sciences, la technologie et le commerce. Il m'a surpris en me proposant spontanément, fait sans précédent, d'autoriser les militaires américains à utiliser l'espace aérien russe pour acheminer des troupes et du matériel en Afghanistan. Une option qui réduirait notre dépendance exclusive aux itinéraires de ravitaillement pakistanais, pas toujours très fiable. Quant à ma priorité numéro 1, la coopération américano-russe pour contenir la prolifération nucléaire, y compris la course à l'armement nucléaire de l'Iran, Medvedev s'est montré prêt à s'engager avec franchise et souplesse. Il a accepté ma proposition que nos experts respectifs commencent immédiatement les négociations sur la réduction des arsenaux nucléaires de chaque pays pour poursuivre sur la lancée du traité existant sur la réduction des armements stratégiques, START, qui expirait à la fin de 2009. S'il n'était pas décidé à s'engager au plan international pour sanctionner l'Iran, il n'a pas refusé, a priori, allant jusqu'à reconnaître que les programmes de développement nucléaire et de missiles iraniens avaient avancé bien plus vite que ne l'avait prévu Moscou. Une concession comme aucun responsable politique russe n'en avait jamais fait, selon McFaul et Burns, même en privé. Toujours est-il que Medvedev était loin de se montrer conciliant. Il a clairement affirmé, durant nos discussions à propos de la non-prolifération, que la Russie avait aussi une priorité. Il voulait que nous reconsidérions la décision du gouvernement Bush d'implanter un système de défense antimissile en Pologne et en République tchèque. Il parlait, je suppose, au nom de Poutine, qui comprenait bien que la raison principale pour laquelle les Polonais et les Tchèques s'apprêtaient à accueillir de bon cœur ce bouclier était qu'il renforcerait la présence militaire américaine sur leur sol, leur fournissant une protection supplémentaire contre l'intimidation russe. En réalité, à l'insu des Russes, nous étions déjà en train de remettre en cause le système antimissile terrestre en Europe. Avant que je parte pour Londres, Robert Gates m'avait informé que les projets développés sous Bush avaient été jugés potentiellement moins efficaces contre les menaces pressantes, essentiellement l'Iran, qu'initialement prévues. Gates avait suggéré que je mette à l'étude d'autres configurations possibles avant de prendre la moindre décision. Je n'étais pas disposé à satisfaire la demande de Medvedev en intégrant les considérations sur la défense antimissile dans les négociations du START à venir. Je pensais en revanche qu'il était dans notre intérêt d'apaiser les inquiétudes des Russes. Et le hasard du calendrier a fait que j'ai pu m'arranger pour que Medvedev ne reparte pas de Londres les mains vides. Je lui ai présenté mon intention de revoir nos projets en Europe comme gage de ma bonne volonté à discuter de la question en toute bonne foi. J'ai ajouté que les progrès que nous ferions pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire influeraient assurément sur toute décision, un message qui n'était pas d'une grande subtilité et auquel Medvedev a répondu avant même qu'il soit traduit. « Je comprends », a-t-il dit en anglais avec un petit sourire. Avant de prendre congé, Medvedev m'a également invité à venir en Russie l'été suivant, invitation que j'étais enclin à accepter. En regardant son cortège de voitures repartir, je me suis tourné vers Burns et McFaul et leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. « Je vais être honnête, monsieur le Président », a dit McFaul, « je ne vois pas comment cela aurait pu mieux se passer. Il m'a paru bien plus ouvert à la discussion que ce que j'aurais pu imaginer. » « Mike a raison », a enchéri Burns, « mais je me demande si tout ce qu'a dit Medvedev a été validé par Poutine en amont. » J'ai hoché la tête. « Nous le saurons bien assez tôt. » À la fin du sommet de Londres, le G20 avait réussi à trouver un accord en réponse à la crise financière internationale. Le communiqué final, diffusé conjointement par tous les chefs d'État présents, comprenait les priorités américaines, comme l'implication accrue dans les politiques de relance et le refus du protectionnisme, ainsi que des mesures visant à faire disparaître les paradis fiscaux et améliorer les outils de contrôle financier, qui étaient importantes aux yeux des Européens. Les BRICS pouvaient se réjouir de l'engagement pris par les États-Unis et l'Union européenne d'examiner de possibles changements dans leur représentation à la Banque mondiale et au FMI. Dans un élan d'enthousiasme, Sarkozy nous a empoignés, Tim et moi, alors que nous sortions du bâtiment. « Cet accord est historique, Barack », a-t-il lancé. « Ça a été possible grâce à vous. Non, c'est vrai. Et Monsieur Geithner, là, il est formidable. » Sarkozy s'est alors mis à scander le nom de famille de mon secrétaire au Trésor comme un fan de football. Suffisamment fort pour que plusieurs têtes se tournent dans la salle. Je n'ai pu m'empêcher de rire, non seulement en constatant que Geithner se sentait un peu mal à l'aise, mais aussi en découvrant l'expression d'Angela Merkel. Elle venait juste de terminer sa lecture du communiqué et regardait à présent Sarkozy comme une mère son enfant turbulent. La presse internationale a considéré que le sommet avait été un succès. Non seulement l'accord était plus substantiel que prévu, mais notre rôle central dans les négociations avait contribué, au moins partiellement, à retourner en notre faveur l'opinion selon laquelle la crise financière avait terni de façon permanente le leadership américain. Au cours de la conférence de presse finale, j'ai pris soin de remercier tous ceux qui avaient joué un rôle, louant Gordon Brown en particulier, pour le rôle de leader qu'il avait assumé, et faisant valoir que, dans ce monde interconnecté, aucune nation ne pouvait faire cavalier seul. Résoudre de grands problèmes, ai-je dit, exigeait le type de coopération internationale que l'on avait vu à l'œuvre à Londres. Deux jours plus tard, un journaliste, souhaitant que je commente cette déclaration, m'a demandé mon point de vue sur l'exceptionnalisme américain. « Je crois en l'exceptionnalisme américain », ai-je affirmé. « Tout comme je soupçonne les Britanniques de croire en l'exceptionnalisme britannique et les Grecs de croire en l'exceptionnalisme grec. » C'est seulement plus tard que j'ai pris conscience du fait que les Républicains et les médias conservateurs s'étaient emparés de cette remarque anodine, prononcée avant tout par modestie et courtoisie, comme une preuve de faiblesse et de manque de patriotisme de ma part. Des commentateurs ont commencé à désigner mes interactions avec des dirigeants et citoyens d'autres nations comme « la tournée des excuses d'Obama », sans jamais pouvoir citer un exemple d'excuse que j'aurais présenté. De toute évidence, le fait de ne pas avoir sermonné des publics étrangers sur la supériorité américaine, sans parler de ma disposition à reconnaître nos imperfections et à tenir compte du point de vue d'autres pays, était discréditant. Cela rappelait une fois de plus combien notre paysage médiatique était scindé et combien un état d'esprit sectaire de plus en plus délétère avait désormais renoncé à toute décence. Dans ce monde nouveau, une victoire en politique étrangère, au regard de tous les critères traditionnels, pouvait être présentée de manière déformée au point de passer pour une défaite, du moins dans les esprits de la moitié du pays. Des messages favorables à nos intérêts et qui redoraient notre blason à l'étranger pouvaient conduire à une ribambelle de critiques en Amérique. Dans un registre plus joyeux, Michel a connu un véritable succès pour ses débuts internationaux, s'attirant notamment les bonnes grâces de la presse lors de sa visite d'un collège de filles dans un quartier défavorisé de Londres. Comme cela serait le cas pendant toute la durée de notre mandat à la Maison-Blanche, Michel se délectait de telles interactions, capable d'établir le contact avec des enfants de tous âges et de tous milieux, et manifestement, cette magie s'exportait très bien à l'étranger. Dans cet établissement scolaire, elle a parlé de son enfance, des obstacles qu'elle avait dû surmonter, et elle a expliqué en quoi les études avaient toujours été pour elle un moyen d'aller de l'avant. Les élèves, issus de milieux populaires pour la plupart, d'origine antillaise ou d'Asie du Sud, ont écouté, captivé, cette femme connue dans le monde entier leur affirmer qu'elle avait un jour été exactement comme elle. Dans les années qui ont suivi, elle passerait à plusieurs reprises du temps avec des écolières de l'établissement et accueillerait même un groupe d'entre elles à la Maison Blanche. Par la suite, en étudiant les données de l'école, un économiste conclurait que les interventions de Michel avait eu pour effet une nette amélioration des résultats aux examens, révélant les bienfaits tangibles de son discours fondé sur l'identification qui motivait les élèves et faisait une réelle différence dont on pouvait mesurer les résultats. Cet effet Michel, je le connaissais bien. Elle avait ce même effet sur moi. Des rencontres comme celle-ci nous ont aidés à ne pas oublier que notre travail en tant que première famille n'était pas uniquement une question de politique et de stratégie. Michel a néanmoins suscité une petite controverse, elle aussi. À la réception donnée en l'honneur des chefs d'État du G20 et de leurs conjoints, en présence de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham, elle a été photographiée la main posée sur l'épaule de Sa Majesté, ce qui constituait apparemment une infraction au protocole. En outre, lors de notre rendez-vous privé avec la reine, Michel portait un cardigan par-dessus sa robe, ce qui n'a pas manqué d'affoler la presse britannique. « Tu aurais dû suivre mon conseil et mettre un de ces petits bibis », lui ai-je dit le lendemain matin, avec un petit sac à main assorti. Elle a souri et m'a embrassé sur la joue. « Et toi, réfléchis bien au canapé dans lequel tu dormiras à ton retour », a-t-elle répondu sur un ton guilleret. « Ce n'est pas le choix qui manque à la Maison-Blanche ».